Vous écoutez RTL, première radio de France. RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, soyez bienvenus dans votre cabinet de curiosité. J'espère que vous vous portez bien. Nous, on est en forme. Ça va, Thomas ?
Ça va.
Je parle pour moi en tout cas.
Ça va très bien. Non, mais le nous m'englobe avec plaisir. Ça va très très bien. Bienvenue à vous. Les curieux, vous savez que vous pouvez réagir dans cette émission au 3210 sur RTL.fr ou alors sur les réseaux sociaux.
Mais on peut quoi ? Poser des questions ? Râler ?
Râler si vous voulez.
Partager des souvenirs.
J'espère que ça vous fait pas trop râler. D'écouter la curiosité. En tout cas, il y a aussi les réseaux sociaux avec le mot dièse, le hashtag La Curiosité RTL. C'est Sarah qui attend vos réactions. Par exemple, pour ce programme, la foudre, Usain Bolt, 9 fois champion olympique, vous vous rendez compte? Il annonce sa retraite pour la fin de saison. Comment est-il devenu le plus grand? Que va-t-il faire de sa vie après la compétition? Réponse tout à l'heure avec nos partenaires du magazine L'Équipe.
Alors, vous l'avez remarqué, c'est l'automne. Les feuilles rougissent et tombent. Certains animaux s'endorment pour de longs mois. D'autres prennent la poudre d'escampette. Quelle drôle de saison.
Et puis,
il y en a qui brament. Bon, en fait, Thomas, il y en a qui s'envoient en l'air pendant que d'autres hibernent. C'est ça l'histoire. Et avec notre naturaliste préféré, Marc Giraud, on va vous proposer une promenade dans vos jardins et vos forêts pour tout comprendre. Et tout de suite, on prend la mer 2.0.
RTL.
Quelques secondes au moment où tu franchis la ligne, il y a tout qui part, tout qui s'efface, la course est finie.
La curiosité est un vilain défaut.
La course, le plus mythique, le plus magique. Et même si j'ai déjà fait un, j'ai envie de retourner parce que je sais que ça va être pas pareil.
Jusqu'à 22h.
Chaque jour, tu dis c'est pas possible, je vais pas tenir jusqu'au bout. Et puis chaque jour, tu arrives à trouver quelque chose pour avancer, quoi.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Dimanche, la 8e édition du Vendée Globe débarre au Sable d'Olonne. L'occasion de découvrir les skippers que vous venez d'entendre et les bateaux aussi qui vont prendre la mer. De vrais ordinateurs flottants, d'après nos confrères du Parisien Magazine, aujourd'hui en France, en partenariat avec RTL. Bonsoir Gaëtane Morin.
Bonsoir.
Bienvenue, ravie de vous retrouver au micro de la curiosité. Ça faisait longtemps.
Voilà.
Et on accueille un nouveau dans la curiosité, Sylvain Beau. Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez bienvenus.
Bienvenue à tous les deux.
Alors c'est vrai qu'on a encore une image assez romantique et vintage des bateaux. Moi j'imagine une coque en bois, des instruments tels que des compas sur des cartes comme ça pour naviguer. Mais enfin, les bateaux qui prennent le départ du Vendée Globe n'ont quand même plus du tout rien à voir avec ça.
Plus du tout, exactement. Adieu le compas, adieu les cartes qu'on dépliait sur les vieilles tables en bois.
Le verre de rhum qui s'effondrait par terre. Non, c'est...
Le verre de rhum, j'y crois pas trop sur le Vendée Globe. Mais bon.
C'est vraiment la technologie, Sylvain Beau, qui a envahi les cockpits. C'est ça la première impression pour vous qui êtes allé à la rencontre de ces skippers?
Ouais, j'ai eu la chance de naviguer avec François Gabart sur son nouveau maxi trimaran. Et effectivement, ça saute aux yeux. Il y en a un peu partout, de la coque à la voile, au mât,
dans
toutes les pièces.
Ça fait tout neuf.
Lui, il est tout beau, tout neuf. En plus, il a été mis à l'eau en 2015, donc il est encore.
Tiens, juste pour se rendre compte, combien de GPS a-t-il sur son bateau?
Alors lui, il en a 19, je crois.
19 GPS,
ouais, 19, mais il sert à... satellite, tout ça.
Ils servent à quoi? Comment on peut... C'est au cas où les 18
c'est
premiers tombent en panne.
Pour communiquer, pour assurer la meilleure route navigable, pour trouver les meilleures conditions météo. Enfin, ça, c'est toute l'informatique qui est embarquée.
Et en guise de GPS, son père, Francis Gabart, François Gabart, il utilisait quoi?
Bah, il utilisait un sextant, comme on faisait bien avant tout ça.
Mais c'est quoi un sextant? Ça ressemble à quoi? Ça marche
on
comment?
On a tous vu ça dans Tintin ou dans. C'est un vieil outil pour comprendre la position
en fait.
de son bateau en mer. On calcule la longitude, la latitude.
Alors vous, Sylvain Beau, qui avait passé du temps à naviguer avec François Gabart, c'est pas la seule technologie qu'il a à bord. Il a par exemple autour de son poignet quelque chose de particulier qui lui sert tout le temps.
Ouais, il a une montre un peu spéciale qu'il a fait concevoir pour lui et pour son bateau.
Ouais.
C'est une montre qui est directement reliée à son pilote automatique, qui lui permet de le commander à distance, de l'enclencher ou de l'éteindre, ce qui n'arrive plus vraiment souvent maintenant. Et il peut reprendre la barre quand il veut, mais en général, il marche 95% du temps et ça lui permet à distance de modifier l'angle du mât, des voiles ou le cap du bateau, tout simplement.
Et il est fier d'avoir toutes ces technologies, François Gabart. Il se sent plus fort, il se sent vraiment à la pointe de la technologie marine.
Bah, je ne sais pas s'il se sent plus fort, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la voile ne peut plus occulter, n'a jamais occulté d'ailleurs la technologie comme ça, mais ça a toujours été un système... comment dire, milieu à milieu, à la pointe de la technologie. Voilà.
On cherche toujours à s'améliorer et à aller d'une nouveauté à l'autre. On en parlera tout à l'heure avec Patrice Gabart, notre Gabart à nous, qui est l'envoyé spécial d'RTL au Sable d'Olonne. Il nous dira ce qu'il en pense. Vous avez rencontré aussi, je crois, le navigateur Thomas Ruyan. Alors, il est moins connu. Vous nous rappelez qui c'est ?
Alors, Thomas Ruyan, c'est un nordiste, ce qui n'est pas si courant chez les skippers. Il a 35 ans, c'est surtout son premier Vendée Globe. Il navigue sur un bateau qui s'appelle Souffle du Nord, projet Imagine. Et donc, en fait, il se prépare depuis un an et demi sur ce bateau, en fait.
Alors là, on est sur des plus petits budgets, peut-être. Il est moins favori, c'est
ça ? Oui, c'est-à-dire que lui, il ne vise pas la gagne. Lui, ce qu'il vise, c'est arriver, engranger de l'expérience et vivre l'aventure. Vivre pleinement l'aventure, c'est aussi ça le Vendée Globe. Sur la flotte, ils sont 29 à prendre le départ. Je crois qu'il y a à peu près deux tiers des navigateurs qui ne visent pas la victoire, mais qui veulent vraiment se faire plaisir en mer, quoi.
Alors Thomas Ruyan, vous l'avez interrogé aussi sur cet intérêt d'avoir un pilote automatique à bord, et lui, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il en est super fan.
Alors surtout, Thomas Ruyan parle du pilote automatique et explique que ça sera actionné pour lui à 95% du temps de la course. Mais en fait, c'est un peu le cas de tous les navigateurs, parce que actionner le pilote automatique, ça veut dire que, en gros, c'est la machine qui va gérer la trajectoire et la vitesse pendant un certain temps, mais ça permet de laisser du temps pour les manœuvres, que ce soit déplier les voiles qui sont quand même très lourdes et qui prennent du temps, ou surtout tracer la route à partir des cartes météo.
Mais en fait, ça veut dire quelque part que ça libère du temps. C'est vraiment pour les skippers qui bossent en solitaire. Parce qu'on ne peut pas être partout.
Il faut quand même imaginer la taille des bateaux et le poids des voiles. C'est-à-dire que c'est des bateaux qui font 18,30 mètres de longueur sur 6 mètres de largeur, qui vont hyper vite. Ils peuvent atteindre jusqu'à 55 km/h pour les plus gros et enfin, les plus perfectionnés. Donc effectivement, ça va tellement vite que le skipper est partout tout le temps. Donc il faut qu'il ait ce temps-là. S'il est à la barre, il ne peut rien faire d'autre.
C'est un débat qu'on peut avoir aussi d'ailleurs pour le sport automobile. Est-ce que la technologie finit pas par rendre ces sports plus faciles pour les pilotes? Alors je mets quiconque au défi d'aller aussi vite dans une Formule 1 ou sur un bateau engagé au Vendée Globe, mais quand même il y a un débat là-dessus. Est-ce que ça enlève pas un petit peu de saveur au métier?
En tout cas, c'est vrai que la comparaison est forte et probante. C'est-à-dire que c'est vrai que par exemple en F1 aujourd'hui, si vous prenez quelqu'un comme Alain Prost qui se battait avec sa voiture pour essayer de la tenir droite et équilibrée sur la piste, aujourd'hui, c'est plus le cas. Les pilotes sont tellement assistés et c'est quand même la même chose en navigation. Après, ils disent tous que malgré tout, la part de feeling reste importante, que même s'ils ont plein d'outils aujourd'hui qui sont indispensables, il faut que le marin fasse parler sa science et son instinct pour gagner.
Dans votre article du Parisien Magazine aujourd'hui en France, il y a une série de très très belles photos qui sont signées Guylain Grenier, où l'on voit nos navigateurs français avec tout un tas de matériel électronique, des mini-écrans, des casques, des tablettes, un arsenal à selfie.
Ils sont beaux mecs en plus.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est vrai, ils sont beaux mecs.
Ça me fait plaisir que vous le dites.
Parce que vous n'osez pas le dire, moi je le dis.
C'est vrai, ils sont très beaux et très talentueux. On décrypte tout ça dans un instant. Pas la beauté, hein, la technologie bien sûr.
C'est pas l'homme qui prend la mer.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La mer n'existe pas. Parfois nous la rêvons.
On ne gagne pas la course en une journée en faisant un coup magique qui te permet de prendre une grosse avance sur tout le monde.
Ça n'existe pas.
Jusqu'à 22h.
Ce n'est qu'une intuition.
C'est autant une aventure d'arriver au départ que de le faire.
Face à la mer.
Vendée Globe is the single most difficult sporting challenge that exists on the planet today.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le Vendée Globe, le challenge sportif le plus difficile sur la planète. La 8e édition de cette course autour du monde à la voile débute dimanche au Sable d'Olonne, évidemment. C'est un défilé de haute technologie. En tout cas, c'est ce que nous font découvrir nos partenaires du Parisien Magazine aujourd'hui en France. Et on fait le tour de ces bateaux du futur avec Gaëtan Morin, Sylvain Beau et puis aussi l'envoyé spécial de RTL au Sable d'Olonne, Patrice Gabart. Bonsoir Patrice, merci d'être avec nous dans la curiosité, parce que vous êtes bien sollicité à 3 jours du départ. Qu'est-ce qu'ils font, tiens, les skippers ?
Bah, les skippers, d'abord, ils répondent aux interviews des journalistes, pour commencer. Ils organisent des conférences de presse, ils baptisent des bateaux. Demain, il y a le baptême de Tanguy de la Motte, du bateau de Tanguy de la Motte, demain soir. Et puis, bon, ils reçoivent aussi les partenaires. Hein. Ils sont là aussi pour... il y a eu des sponsors qui ont mis de l'argent pour leur permettre de faire le tour du monde. Et ils ont aussi un devoir de relations publiques.
Thomas, donc, ils étaient beaux. Est-ce qu'ils se font beaux, justement, avant la course?
Oui, alors ça, c'est un rituel, hein. Le fameux rituel du coiffeur. Donc les marins ne sont pas des coiffeurs, mais ils vont chez le coiffeur. Et donc notamment Quito de Pavan, que j'ai croisé tout à l'heure sur les pontons et qui avait une nouvelle coupe. Hein, on coupe pas à ras, certains le font. Hein, mais voilà, on va chez le coiffeur, on dégarnit. Et j'attends de voir Jean Le Cam qui part pour son quatrième Vendée Globe. Et Jean Le Cam, il a une énorme tignasse et j'ai hâte de le voir demain ou après-demain parce qu'à mon avis, il va aller au ras des pâquerettes.
Oui, parce que c'est le prochain rendez-vous avec le coiffeur, évidemment, c'est dans longtemps.
C'est dans 3 mois.
Oui, c'est ça. À partir de quand ils rentrent en quelque sorte dans leur bulle, ces skippers?
Ça commence là, ça commence. En fait, toute la semaine, on sent bien que les conférences de presse diminuent. Vous voyez, par exemple, demain, il est prévu une interview avec Armel Lecléache, qui est le grand favori de cette course. Et lui, bon, il est déjà hyper concentré. Et tout à l'heure, j'ai reçu un petit message. On m'a demandé si je pouvais pas avancer l'interview, non pas de 15h30, mais à 15h15 ou 15h20, parce qu'il veut vite se reposer. Je suis le dernier. En fait, ça doit être sans doute la dernière interview avant son départ.
Patrice voilà. Gabart, cette course autour du monde à la voile en solitaire, c'est une course atypique, c'est-à-dire qu'il y a et des aventuriers et des sportifs, où on est 100% sport et gagne.
Non, alors cette année, on ne l'est pas du tout, c'est les deux. Hein. Tout à l'heure, on parlait de deux tiers qui veulent d'abord finir, c'est le cas, hein, puisque sur les 29 concurrents au départ, aujourd'hui, il y en a 10 qui vont jouer la gagne, qui ont les bateaux et le talent pour gagner, et puis les 20 autres vont d'abord essayer de boucler la boucle. Hein. Faut savoir qu'en moyenne, la moitié des bateaux ne vont pas arriver au Sable d'Olonne. Hein. Le pourcentage moyen d'abandon est de 50%. Depuis le premier Vendée Globe. Le pire, c'était 40% à deux reprises. Donc voilà, autant dire qu'il y a sur les 29 qui partent, il y en a 14 ou 15 qui ne vont pas franchir la ligne d'arrivée dans 3 mois. Et je voudrais revenir tout à l'heure sur ce que vous avez dit sur le défi. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait que c'est le plus grand défi au monde. Oui. Ah oui, parce que ça dure 3 mois, 24 heures sur 24. C'est pour ça qu'il faut des pilotes automatiques aussi, parce qu'ils ont besoin de se préparer à manger, ils ont besoin de régler le bateau, faire la météo, communiquer, faire des vidéos, enfin, tous les besoins aussi naturels de la vie courante. Et voilà, et pour ça, il faut aussi une assistance. Et je reviens sur le défi, effectivement, c'est une compétition qui dure 3 mois, 24 heures sur 24, et c'est pour ça que c'est le plus grand défi au monde.
Ouais, c'est impressionnant. Dernière question, on vous laisse parce que vous allez...
Non, j'ai le temps là, ça
interviewer
va.
Vincent Rioux. J'ai le temps. Vincent Rioux pour la matinale d'Yves Calvi demain. Quand on disait de la technologie sur tous les bateaux, c'est aussi un moyen pour nous, passionnés de voile ou journalistes, pour le public en général, de mieux vivre la course, c'est ça?
Bah, de toute façon, alors, celui qui a innové là-dedans et qui était le grand précurseur, c'est Loïc Perron. Loïc Perron qui a filmé, qui a été le premier à envoyer des images lorsqu'il sauve le bateau de Poupon lors de la première édition, lorsqu'il le relève. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images, elles ont fait bien le tour du monde. Eh bien, c'est Loïc hein, qui est à l'initiative de ces images et qui les diffuse. Et lui a toujours été précurseur là-dedans et toujours été volontaire, voulant communiquer. Pour lui, le marin dans son bateau, au secret, c'est pas sa tasse de thé. Lui, ce qu'il veut, c'est montrer la vie du marin au large, ce que le public attend. Et bien sûr, le Vendée Globe, il a été le démultiplicateur, en tout cas, de la transmission d'images vidéo, d'images photos, d'interviews, puisque les vacations, il y en a plusieurs par jour. Et ce qui permet, en fait, finalement, vous savez, le public ici, c'est immense, hein, puisqu'on devrait franchir la barre du million cette semaine de visiteurs sur les pontons. Wow. C'est impressionnant. 300 000 la première semaine, 380 000 la deuxième. Et puis là, ces derniers jours, il y avait tellement de monde qu'il y avait une heure d'attente pour accéder aux pontons. Eh bien, ces gens-là, ils vivent l'aventure par procuration, alors en venant sur les pontons. Puis après, ils la vivent presque à bord du bateau, grâce aux images qui sont diffusées à longueur de journée.
Merci beaucoup. Merci, Patrice Gabart. On a le plaisir de vous retrouver demain matin dans la matinale avec Yves Calvi, Gaëtan, Gaëtan Morin, pardon, Sylvain Beau. Vous avez visité le bateau de François Gabart, Sylvain. Oui. Il ne prendra pas le départ du Vendée Globe cette année. Il ressemble à quoi? Vous pouvez nous décrire le cockpit? C'est vraiment un espace avec... plein d'écrans, on dirait une sorte de pièce du futur.
Tout sur ce trimaran est vraiment à la pointe de la technologie, y compris donc bien sûr ce cockpit qui comprend 6 écrans, je crois. C'est 2x3 en fait où il y a les mêmes, comme ça, quel que soit le côté où il se trouve sur le bateau, il peut y avoir accès très rapidement. Et on y trouve toutes les informations nécessaires à la navigation, comme la vitesse du bateau, le vent, d'où vient ce vent, l'angle du mât qui peut être pivotant dans tous les sens, ou l'incidence de pénétration des fameux foils dans l'eau.
Mais qu'est-ce que c'est ça, l'incidence de pénétration du foil dans l'eau? Là, vous me collez.
Alors, c'est la nouvelle révolution en vogue, on va dire, on peut dire. Je crois qu'il y en aura 7 au départ du Vendée Globe qui posséderont cette technologie. C'est une sorte de lame comme une aile d'avion, oui, retournée en fait, un peu courbée, qui permet quasiment au bateau de voler sur l'eau en gros.
Mais qui est où en fait?
Il est de chaque côté du bateau. Enfin là, c'est possible que surtout sur ce trimaran là, qui n'est pas le même bateau qui part. Pas le même genre de bateaux qui partiront des dimanches dans le Vendée Globe. Il est sur les deux côtés du bateau et il y en a toujours qu'un seul des deux qui peut être dans l'eau, comme il peut rétracter les deux aussi. Il n'est pas obligé de les utiliser selon les conditions.
C'est impressionnant. Autre technologie à bord, on en parlait à l'instant, celle qui permet de communiquer avec le monde entier. Par exemple, Tanguy de la Motte, alors lui, son bateau s'appelle Initiative Cœur. Gaëtan Morin, qu'est-ce qu'il fait à bord avec son matériel?
Alors, Tanguy s'était déjà fait remarquer lors de la précédente édition du Vendée Globe, justement parce que c'était un très bon communicant. On se souvient aussi, il y a quelques temps, de Samantha Davis qui envoyait plein de vidéos. Donc en fait, c'est aussi un enjeu pour les navigateurs pendant le Vendée Globe de bien communiquer, d'envoyer pas mal de vidéos par rapport à leurs partenaires, par rapport à leur community fan sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Et donc Tanguy de la Motte, cette fois-ci, a décidé d'être filmé en permanence. Il a des caméras partout sur le bateau et il a créé, et avec son équipe, et il s'est formé de lui-même un logiciel pour pouvoir monter en direct en pleine mer, alors peut-être pas en pleine tempête, mais en tout cas en pleine mer, ses vidéos, et pouvoir les transmettre comme ça directement en fait à sa communauté, quoi.
Et puis il faut dire qu'il navigue aussi sous les couleurs d'une asso, c'est donc Initiative Cœur le nom de son bateau, et c'est au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque, et c'est pour ça que vous l'appelez aussi le marin au grand cœur dans votre papier.
C'est ça, et effectivement c'est important pour lui. En fait, l'enjeu communication pour certains est essentiel, quoi.
Alors, il y a une autre photo qui est intéressante à commenter dans le Parisien magazine aujourd'hui en France. C'est Sébastien Josse qu'on voit drôlement harnaché. Qu'est-ce qu'il fait exactement?
Alors, Sébastien Josse, en fait, il a un casque sur la tête, qui est un casque audio, qui est relié par un fil à son smartphone, qui est dans une perche à selfie. Et en fait, Sébastien Josse, il est capable de faire ses vidéos comme ça, façon selfie, avec sa perche et son casque. Et il lui suffit d'allumer son antenne satellite pour les transmettre. Donc en fait, il transmet quasi instantanément les vidéos qu'il tourne.
Alors on a l'impression d'avoir quand même...
On est loin de l'époque de Tabarly, qui gagnait la Transat, et on n'avait eu aucune nouvelle de lui pendant des jours et des jours, et il sort de la brume et c'est lui le vainqueur.
Enfin, c'est vrai, pour que ça évolue. D'ailleurs que les sponsors aujourd'hui cherchent un profil de skipper assez très novateur par rapport à l'époque de Tabarly, où on était sur des vieux loups de mer un peu solitaires, presque des ours, quoi. Ouais. Là, au contraire, ils cherchent des communicants, en fait. Il faut aussi que le navigateur soit un bon communicant.
Ouais, Gaëtan Morin, pas d'être de très bons marins.
Là, on a l'impression d'avoir vraiment touché le top de la technologie. Et pourtant, François Gabart, lui, le navigateur, il a encore un rêve. C'est quoi? De pouvoir
parler à son bateau.
Mais c'est fou, de communiquer comme si son bateau avait une intelligence artificielle,
c'est ça? C'est à peu près ça, oui. Tout à fait. Il voudrait pouvoir lui donner des ordres par la simple parole.
Ou discuter le soir.
Les données projetées sur les voiles. Enfin.
Ça aussi, il aimerait bien. Ça doit être beau la nuit, en plus, effectivement. Ou des lunettes connectées qui pourraient avoir toutes les données sans avoir à rejoindre le cockpit ou sans avoir à regarder les écrans.
Ouais, bon, on peut même imaginer un bateau qui dise à son skipper: hey, tu m'as trop fait souffrir aujourd'hui. Attention, je suis à la limite. Pour éviter la casse, ça serait drôle.
Merci beaucoup, Sylvain Beau. Merci, Gaëtan Morin. Le Parisien Magazine, aujourd'hui en France, en partenariat avec RTL, évidemment, à découvrir demain dans vos kiosques.
Vous écoutez RTL.